Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct, également en podcast. Merci infiniment, évidemment, chers auditeurs. Nous sommes là pour vous conter le sport chaque week-end avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Denis Charvet, Fred Le Canut. Ce matin, dans quelques instants, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Il y a la 33e journée de Ligue 1. C'est un multiplex. Tous les matchs, les 9 matchs seront en même temps. Ça va évidemment être magnifique sur RMC ce soir à partir de 21h. Lyon qui se déplace à Monaco avec des comptes dans le rouge. C'est quasiment mort pour la Ligue des Champions. Faites-vous encore confiance à John Textor. 11h30, le match de la peur en top 14 aujourd'hui entre l'USAP et le Stade Français. Une équipe qui ne joue jamais le maintien est-elle désavantagée? Ce sera le dossier des GG. Puis 11h45, le débat caché. Vous ne savez rien, mes GG, mais vous allez devoir débattre. Ce sera dans quelques minutes. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Pierre Corneille qui a dit un jour: le trop de confiance attire le danger.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le goudron et les plumes est une vieille recette du Far West destinée à enlever aux malfaiteurs l'envie de revenir sur le théâtre de leurs exploits.
Et c'est fini ! C'est terminé ! C'est terminé dans un scénario complètement dingue. Manchester United se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais est éliminé au bout du bout d'une soirée compliquée.
Guys, can I tell you something? This is bullshit.
Ah, le con, alors t'es un vrai cow-boy.
C'est terminé au Parc des Princes avec la victoire du Paris Saint-Germain. Un petit manque d'ambition de la part des Lyonnais.
So PSG can kick our ass every year.
Shérif, vous feriez mieux d'alerter l'armée. Vous aurez besoin d'elle ici.
C'est terminé.
C'est terminé, le coup de sifflet de Monsieur Le Texier et Geoffroy Guichard a vécu une soirée comme nul autre. Et l'Olympique Lyonnais doit s'incliner de buts à 1.
Globally, it sucks. It sucks.
Repart au Texas, Richard.
L'Olympique Lyonnais est-il vraiment au bord du gouffre après sa défaite à domicile le week-end dernier face à Lens? L'OL a quasiment dit adieu à ses rêves de Ligue des Champions la saison prochaine. Une compétition, vous le savez, pourtant vitale pour le club sur le plan financier. Serait-ce une vraie catastrophe avant le prochain passage devant la DNCG en juin? Le gendarme financier, vous le savez, du foot français avait sanctionné le club en fin d'année 2024 avec une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 et une interdiction de recrutement. L'étau, on a l'impression, se resserre chaque jour un peu plus en raison de ses comptes dans le rouge. L'Olympique Lyonnais négocie d'ailleurs actuellement avec l'UEFA pour éviter tout simplement une exclusion des compétitions européennes. Hier, John Textor a tenté d'éteindre l'incendie dans une lettre adressée aux supporters pour les rassurer, dénonçant les demi-vérités dangereuses parues dans la presse. La musique qui fout les jetons est cette question. Faites-vous encore confiance à John Textor? Oui ou non? Denis Charvet?
Non.
Fred Le Canut.
Oui.
Christophe Cessieux.
J'ai du mal là.
Pascal Duprat.
Beaucoup de mal.
Beaucoup de mal, j'ai du mal, vous allez être d'accord. Et ça c'est une première dans cette émission. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Lyon pour toutes les dernières informations, c'est Edouard G. Salut Edouard.
Salut JC, salut à tous.
La question que tout le monde se pose, sans tomber évidemment dans le drama tout de suite: Lyon est-il vraiment en danger?
Ah bah c'est une bonne question que tu me poses, je te remercie de me l'avoir posée, car il faut avoir la franchise de se dire qu'on s'y perd dans tous ces chiffres. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a un écart entre la sévérité des sanctions, celle de l'automne avec la DNCG, et puis celle annoncée, tu en parlais JC, par l'UEFA, et puis l'optimisme du propriétaire, et cet écart est abyssal, et au milieu coule une rivière de perplexité. Encore ce matin, je viens de recevoir de la part du propriétaire de nouvelles précisions sous forme de réponse à l'attaque de Jean-Michel Aulas hier, qui expliquait que lui n'avait jamais eu de soucis avec le gendarme financier. Alors, je vais vous épargner tous les chiffres, hein, mais ils flèchent tous des améliorations avec un engagement d'Eagle Football, la maison mère, je cite, d'assurer la viabilité financière du club tout en préparant son retour au plus haut niveau, ce qui demande temps, discipline et confiance. Nous assumons cette responsabilité chaque jour, donc pas de danger, tout est sous contrôle d'après le propriétaire. Mais, car il y a des mais, il y a des données chiffrées qui donnent le vertige et affolent de nombreux spécialistes et experts comptables avec lesquels je suis en contact depuis quelques jours. Alors eux, ils parlent chiffres couramment et ils m'éclairent par exemple sur cette phrase apparue dans des explications sur des comptes. Tout retard important ou toute non-réalisation de flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société. On préparerait le milieu économique à un dépôt de bilan que l'on n'écrirait pas autrement, me commente par exemple l'un des experts comptables que j'ai eu cette semaine. C'est pour cela, notamment, que les commissaires aux comptes ont pris leur temps pour certifier justement ces comptes, eux qui engagent leur responsabilité pénale dans un cas pareil. Alors, tout ça dessine quelque chose d'inquiétant, mais il y a deux éléments, j'y sais, d'optimisme pour l'institution OL. John Textor a des amis riches autour de lui qui pourraient l'aider. Et puis, John Textor a emprunté 405 millions de dollars à Ares, un taux de 13%. Alors, c'est abyssal, hein, ces chiffres. Ares, c'est une société de capital investissement qui a 334 milliards de fonds à disposition. La dette sera mature qu'en 2028, c'est-à-dire qu'il a le temps quelque part, donc encore 3 ans pour la rembourser. D'où cette petite musique. Ares peut-il reprendre le contrôle et virer John Textor? C'est pour ça que quelque part, d'une certaine manière, c'est plus l'OL, c'est pas l'OL qui est en danger, mais plus John Textor. Et c'est pour ça aussi, c'est ce que me disent un petit peu tous les experts que j'ai pu voir, que ça ne sera pas le scénario de Bordeaux qui pourrait se profiler, mais celui du Milan AC en 2018. Il y a un fonds, Elliott, qui a racheté le club à un homme d'affaires chinois, un petit peu le John Textor italien à ce moment-là, et qui a mis des hommes à lui. Et ensuite, le Milan AC est reparti, notamment avec son titre en 2022. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair, le plus concis pour essayer de pas trop vous perdre dans tout cela.
Merci beaucoup Edouard G. Tu restes avec nous parce qu'on a envie aussi que tu nous parles de cette bataille dans la presse entre Jean-Michel Aulas, l'ancien grand boss de l'OL, et John Textor depuis quelques heures. Faites-vous encore confiance à John Textor, on vous attend, supporter lyonnais, au 32-16. Tu as du mal, Pascal, pourquoi ?
J'ai du mal, comme tout le monde, à comprendre la finalité de John Textor. Déjà, j'ai du mal avec la multipropriété. Donc, que ce soit Textor ou d'autres, plusieurs actionnaires propriétaires de clubs multiples. Je prends l'exemple du club de Molenbeek qui joue en deuxième division belge, qui appartient au groupe Textor. Et puis, ils étaient premiers toute la saison. Ils sont un peu écroulés sur les derniers matchs. Et puis, pour les barrages d'accession, Textor, il a viré son entraîneur. Il a le droit, c'est le propriétaire. Et puis, il a mis l'entraîneur de la réserve de l'OL. Quid des jeunes de l'OL, donc, pendant ce temps. Il est parti une semaine pour jouer Fofana, pour coacher l'équipe de Molenbeek. Puis ensuite, il est revenu quand il a échoué. Donc, tout ça, ça semble pas fleurer. La continuité là-dedans, j'ai du mal à la trouver. Et puis, il y a un gendarme financier en France, et puis il y a un gendarme européen qui le menace et qui le sanctionne. Donc, ça veut bien dire qu'il faudrait qu'il se mette dans les clous. Et apparemment, alors moi, je suis pas initié du dossier, mais apparemment, il a du mal à se mettre dans les clous. Je me mets à la place des supporters lyonnais et je me dis que, en fait, il a peut-être vendu les bijoux de famille. Et puis, qu'adviendra-t-il de l'Olympique lyonnais, ce grand club français? C'est ma question.
Fred Le Canu.
Moi, j'ai confiance dans son ego, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est son nom qui est engagé, et je suis pas sûr que ce monsieur, que je ne connais absolument pas, soit fait tout seul. Donc, il y a un collectif derrière lui. Et aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions à l'envers hein, pour l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que là, c'est la performance. Alors, t'en as, ils sont en performance sportive, eux, ils sont sous perf, à la fois dans le domaine du sport, performance sportive, mais aussi sous perf financière. Et Textor, il est engagé en son nom. Donc il va devoir trouver des solutions. Et là c'est le cut, et j'ai bien écouté le magnifique petit reportage il y a quelques instants, et c'est ce que je pense, c'est-à-dire que quitte à ce qu'il disparaisse à court terme, c'est-à-dire qu'il va devoir trouver de l'argent, quitte à lui disparaître en disant voilà, j'ai trouvé une solution, mais aujourd'hui elle est là la solution, c'est-à-dire qu'il va devoir s'appuyer sur un collectif, quitte à faire un peu croire à tout le monde que c'est la solution et que voilà, c'est quelque chose qu'il aura trouvé c'est la solution du truc. Mais en vrai il a pas le choix. Là on est dans une difficulté totale, et c'est le cut, c'est la Ligue des Champions à l'envers, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, c'est soit la coupe ou la découpe. Donc là à un moment donné, il est obligé de trouver des solutions, et moi je partage tout à fait ce que tu dis Pascal, c'est très complexe, c'est nébuleux parce qu'il y a plusieurs structurations, voilà, les montants financiers me dépassent, hein. Moi j'ai un livret A, tu vois bien que là je suis largué sur le truc. Par contre lui, le gars, il est obligé.
Quand on parle de 300 millions de dettes, toi ça
le quoi qu'il en coûte, ça a toujours été quelque chose de complexe pour moi, si tu veux, tu vois. Donc aujourd'hui on en est là, mais je reste persuadé que là il ne peut pas, en son nom Textor, son ego, il peut pas chuter, il est obligé de trouver une solution, quitte à disparaître à court terme.
Le personnage est tellement extraordinaire au sens littéral du terme, que c'est vrai, on ne s'attend pas à ce qu'il puisse chuter. Il montre une telle confiance.
L'histoire. Mais
qu'on oui, se dit c'est
pas possible. Il a trouvé une solution. Là, t'as peur pour lui quand même. T'as peur pour Lyon. T'as peur pour.
Non, t'as surtout peur pour l'OL.
Pour Lyon, bien sûr. Pour oui, lui, non, bon, évidemment, pas pour lui. Déjà,
non, mais lui, faut qu'il ait les reins solides. Il a emprunté pour acheter 400 briques. Donc il faut déjà être costaud.
Mais s'il avait les reins si solides que ça, et beaucoup d'argent derrière lui, ben il arriverait à couvrir les dépenses.
Mais je
ne comprends pas son attitude.
Il n'a pas pris au sérieux le gendarme financier français.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un doute aujourd'hui qu'il ne va pas s'en sortir ? Je ne crois pas. Non, mais est-ce que tu as un doute aujourd'hui ? Réponds, excuse-moi, t'as recoupé, tu coupes tout le monde. Non, ben arrête, à un moment donné. Mais oui, mais je me dis. Donc, je pense que Textor, il a mal géré la pré-Olas, qu'il a pris ce club sans avoir l'expérience qu'il faut dans ce genre de mission, parce que c'est une vraie mission, et qu'il aurait dû prendre Olas à côté de lui, qu'il l'a pas pris, il l'a négligé, il l'a viré. Alors après, Olas a ses défauts, sûrement, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais je pense qu'il y a le virage, il est là. Aujourd'hui, il commande comme à l'américaine, mais tu commandes pas un club comme l'OL à l'américaine.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore une semaine, quand Lyon pouvait se qualifier pour la Ligue des Champions, personne ne s'est dit où en est Lyon, est-ce que Lyon va s'en sortir et tout ça. Et à partir de cette défaite sportive à domicile face à Lens, tous les papiers se sont un petit peu enchaînés. Alors c'est peut-être ce que veut dire John Textor quand il parle de semi-vérité ou de semi-mensonge. Édouard Jay, sur ce côté, Jean-Michel Aulas qui a mal pris la lettre des supporters. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Oui, ben en fait, c'est surtout le fait que John Textor, d'une certaine manière, remet une partie de la faute sur son prédécesseur avec des dettes qui existaient. Donc du coup, ben Jean-Michel Aulas hier a répliqué dans un commentaire sur un article chez nos confrères de l'équipe en disant que ben lui de son temps, il n'y avait eu aucun problème avec la DNCG. D'où la réplique aujourd'hui, je vous en parlais tout à l'heure avec des chiffres. Alors je vais pas vous noyer dans des chiffres, mais il y a à un moment donné, il y a juste une phrase que l'OL était fortement sous-capitalisé. Donc ça, c'est John Textor qui répond à Jean-Michel Aulas et qui avait aussi une possibilité d'aller devant la DNCG. Il y avait déjà un avertissement qui était sous-jacent, qui peut-être, d'après ce qu'on peut lire entre les lignes, avait été caché au nouveau repreneur. Donc bref, on est en train de se lâcher un peu des chiffres des uns des autres. C'était comme ça avant. Moi, j'ai pris cette situation dans tel
ça, c'est
état.
Voilà. C'est, comme ça.
Alors, en sachant que John Textor a viré Jean-Michel Aulas il y a 2 ans et 2 jours, donc ça fait 2 ans et 2 jours qu'il est aux commandes et que il avait annoncé que normalement au départ, souvenez-vous, hein, Jean-Michel Aulas était là pour 3 ans, et dans son communiqué, Jean-Michel Aulas le dit bien, moi j'étais là pour pendant 3 ans, accompagné, ouais. Que finalement on m'a écarté, voilà, donc c'est des chiffres, on se balance des chiffres de l'un à l'autre, et ce matin juste un dernier chiffre, une dernière donnée, parce que ça part dans tous les sens, la presse anglaise évoque l'introduction, la fameuse introduction en bourse de Eagle Football, la holding, hein, qui détient tous les comptes, et les pourquoi pas en cours. Et alors là, on est, c'est même plus en millions, hein, c'est 2 milliards éventuellement que le Eagle Football pourrait lever. Bref, c'est des chiffres incroyables au cœur desquels on n'arrive plus vraiment à s'y retrouver. Et qui dit vrai ? C'est la bonne question.
Oui, d'ailleurs, quand il est passé sur RMC, John Textor, il défend et ses argumentations, en tout cas son argumentaire, est convaincant. Mais on attend quand même d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire, parce qu'il y a quand même.
Oui, en sachant que c'est un nouveau modèle, la multipropriété, que nous on ne connaît pas. Donc, est-ce que c'est un modèle qui peut être pérenne ? Alors, Pascal, tu as du mal, comme beaucoup, c'est peut-être le modèle qu'il faut à l'avenir. Donc, c'est pour ça que quand on essaye d'analyser les choses vraiment dans leur entièreté, c'est vraiment difficile de se dire. C'est vraiment très 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 compliqué qu'en fait.
Après, ce qui ajoute à mon incompréhension, c'est aussi le volet sportif. J'en parlais en aparté, mais c'est aussi le fait, par exemple, d'avoir viré Pierre Sage voilà, je trouve qu'il n'y a pas de continuité dans ce que fait Textor, mais encore une fois, je suis pas à l'intérieur du club.
Oui, mais il le paye peut-être aujourd'hui, cette instabilité, c'est ce que tu veux nous dire.
Il la paye, oui, parce que le foot, il n'y a pas de recette miracle, mais malgré tout, la continuité la logique de la continuité est importante pour l'épanouissement d'un club.
Tu es pas inquiet, Pascal, par rapport au côté sportif? Je veux dire, il y a des joueurs qui ont une certaine valeur marchande. On le sait, il y en a pas beaucoup. Il y a Fofana, il y a Cherki. Mais imagine qu'ils se déplument parce qu'ils sont obligés. C'est quoi l'avenir sur un plan sportif? Comment ils font pour l'année prochaine redémarrer une saison sans les deux, trois meilleurs joueurs de leur équipe?
La chance de l'OL, c'est d'être justement l'OL, d'avoir une bonne politique de formation. Ça, oui, c'est déjà important.
Ça ne suffit pas.
Et puis, ils vont vendre. Il y a des joueurs à forte valeur marchande. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ouais. Ça ne suffira pas, en tout cas. Parce que le trou, ou en tout cas les problèmes budgétaires, c'est de l'ordre de 300 ou 400 millions, je crois. Donc, ça ne fera pas le tour. Hein.
Ouais. Ce qui est vraiment complexe, je trouve, c'est la nébulosité économique. Qu'elle soit là ou qu'elle soit, par exemple, avec DAZN, tu vois, sur les droits du foot. Enfin, moi, je sais, bon, je ne suis peut-être pas un génie, mais je suis vite perdu quand même, tu vois. Plus c'est moins, je sais ce que ça fait. Là, je ne comprends plus. C'est trop compliqué. Et là où tu soulèves un truc avec Pascal, avec cette notion un peu plurielle, c'est que ça crée encore plus d'histoires d'avoir un club d'un côté, un club de l'autre. Tu vois, c'est multifactoriel. Ça crée des histoires qui n'ont pas lieu d'être avec des conflits d'intérêts potentiels. Enfin, c'est de plus en plus compliqué, complexe. Et les chiffres sont tellement, tellement larges, tellement grands, que moi, je me trouve vraiment perdu dans des choses simples, en fait.
Et puis, il y a eu des promesses qui ont été tenues. Et on le sait, malheureusement, dans le foot français, que parfois, les promesses, on le sait à Bordeaux, elles ne valent. Connaissez l'expression. Il y a Teddy qui nous appelle au 32-16. Bonjour Teddy. Mais
juste une précision. Ouais, rapidement. Juste une précision. Tu parles de chiffres énormes, mais il y a aussi des choses sur le terrain ici à Lyon où il y a des fournisseurs de base, d'une certaine manière, qui sont pas payés. Par exemple, à l'académie, les bénévoles qui accompagnent les équipes sont obligés d'aller acheter de l'eau au supermarché d'à côté, l'eau pour la mi-temps, pour l'avant-match, etc., etc., sur leur denier personnel. Il y a tout plein de petites choses qui jaillissent ici entre Rhône et Saône par rapport à toutes ces factures impayées, les agents, etc., etc. Donc, il y a ces gros chiffres d'un côté, et puis il y a tous ces fournisseurs qui ne sont pas payés, même pour des factures avec pas beaucoup de chiffres avant la virgule.
Teddy, supporter lyonnais. Salut Teddy.
Bonjour messieurs.
Merci d'être avec nous. Bon, est-ce que tu as encore confiance?
Non, la question, c'est pas tout à fait ça.
Est-ce que tu fais encore confiance à John Textor?
Non, la question, c'est ai-je déjà fait confiance à John Textor?
Ah oui.
Et oui, parce que la confiance, ça se gagne, d'accord? Vous avez bien parlé du conflit Olas Textor. C'est vrai que au début, quand c'est arrivé, tout ça, on a dit bon, allez, super, quelqu'un qui a les sous pour investir dans un club, c'est quelqu'un normalement en qui on peut avoir confiance à son projet, pas en lui, mais à son projet. C'est normal. Un investisseur qui arrive avec des fonds, ça peut se respecter. On peut regarder et attendre. Après, le conflit qu'il y a eu avec Olas, je pense que c'est complètement pas au sujet, mais je pense que ça n'aurait rien changé à l'histoire. Je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Michel Aulas, franchement, il nous a fait pas forcément du bien avec Textor. Je m'explique. Je pense qu'il a mal vécu le fait d'être plus mis sur le premier plan de la scène. Et je pense que ça, c'est de l'extra, on va dire sportif. Mais avant tout, moi, ce qui me dérange, c'est que là, aujourd'hui, on se pose cette question. Cette question, on pouvait se la poser dès le début et ne pas arrêter de se la poser. Le problème, c'est que là, on se la pose pourquoi? Parce qu'il y a une contre-performance énorme de l'équipe sur les trois derniers matchs. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire, moi. Moi, le gros problème, c'est que si là, nous avions battu Manchester United et que c'était allé encore plus loin, la question ne se serait même pas posée.
Et non, tu as raison.
Moi, je suis fonctionnaire, je suis à mon humble niveau, je peux pas me mettre en avant comme un investisseur. Mais voilà, j'ai fait des projets dans ma vie, j'ai construit une baraque, voilà, bon bref, on fait nos risques dans notre vie à notre niveau. Moi, qui suis-je? Qui suis-je pour critiquer le plan économique d'un mec qui arrive à balancer 400 millions d'euros dans un projet? La DNCG, tout ça, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait de risqué dans leur vie, ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont géré comme grosse société multinationale, peut-être multipropriété, j'en sais rien. Je pense que c'est trop complexe. Oui, effectivement, je pense qu'on n'est pas prêt économique sur le plan français à avoir des clubs avec des multipropriétés. Je pense qu'on n'est pas prêt à les gérer, à les contrôler.
C'est même pas ça, c'est juste à avoir des dettes.
Ça change rien à la comptabilité, là. Tu peux pas t'appeler toi ta saison que sur des résultats, une projection sur des résultats positifs. Manchester, tu perds contre Manchester, t'as le droit de perdre.
Mais c'est surtout que de jouer sa saison pour être obligatoirement en Ligue des Champions, forcément, à un moment donné, au niveau des joueurs, si vous leur dites, attendez, parce que nous, on est en danger de mort si vous n'êtes pas dans les quatre premiers.
Tu peux pas gérer un club comme ça.
Ça doit être compliqué. Pour être serein, je rappelle évidemment la 33e journée de Ligue 1 ce soir avec ce Monaco-Lyon que nous suivrons évidemment sur RMC. Il y a d'autres matchs très importants justement dans cette course à la Ligue des Champions. Il y a Le Havre-Marseille, il y a Rennes-Nice ou encore Brest-Lille, Angers-Strasbourg. Bref, il va se passer énormément de choses. Et puis cette course au maintien, mon cher Pascal, je te regarde, il y a ce Reims-Saint-Etienne extrêmement cher pour les Verts. Il faut absolument s'imposer. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de rugby. Perpignan face au Stade français. Là, c'est extrêmement chaud. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Denis Charvet, Fred Le Canut dans 10 minutes. Une séquence que vous adorez, c'est le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre sur un sujet hautement important. Bon, en tout cas, c'est moi qui décide. Je ne sais pas si c'est hautement important. Mais il va falloir bien nous dire ce que vous en pensez. Ce sera dans 10 minutes. Tout de suite, on parle rugby.
RMC, le dossier des GG.
Vannes, 14e et dernier avec 35 points. Perpignan, 13e avec 36 points. Le Stade français, 12e, 36 points. La lutte pour ne pas descendre en Pro D2 promet d'être dantesque en top 14 à 4 journées de la fin de la saison régulière. Et aujourd'hui, le match de la peur, comme on dit. Perpignan, Stade français à 16h30. D'un côté, l'USAP, une équipe habituée à jouer le maintien en top 14. De l'autre, le Stade français dans l'élite depuis 27 ans. On retrouve notre correspondant à Perpignan, Julien Landry. Salut Julien.
Salut messieurs.
Comment les deux équipes vivent ce moment? J'imagine de manière assez différente.
Exactement, de manière même totalement différente. Du côté de l'USAP, on a conscience de disputer une finale, un match spécial dans une saison, comme depuis 4 ans d'ailleurs, une expérience qui compte pour le pilier italien Pietro Ceccarelli.
C'est vrai que le club est en position depuis plusieurs années de jouer, soi-disant, au maintien, mais... Je pense qu'on se concentre vraiment sur nous-mêmes. La pression qu'on a derrière, c'est très bien. Comme je répète, c'est comme je sens qu'il y a tout le monde derrière nous. Et c'est vraiment ça qui nous amène du positif. C'est une finale et on la joue chez nous. On sait qu'il y a à peu près le Catalan qui est derrière nous. Donc ça, c'est un plus.
Spécial et donc préparation spéciale. Pour éviter les fuites à l'entraînement où 200 supporters étaient présents la semaine dernière, Franck Azema a décrété un huis clos total pour la première fois de la saison. Aucun passe droit n'a été toléré. Même Jean-François Imbernon, légende locale, a dû quitter sa place habituelle. Le manager a voulu resserrer son groupe dans la dernière ligne droite. Et il compte plus sur l'ambiance que sur l'expérience pour aborder ce match.
Certainement qu'il y a des sensations qui, au fil du match, vont se révéler. L'atmosphère à Emégiral, je sens les mecs bien, je sens les mecs en confiance. Mais c'est chaque fois une histoire différente. Donc te dire que tu peux t'appuyer là-dessus, j'y crois pas. Je pense intrinsèquement il y a des joueurs qui vont retrouver des sensations et qui peuvent les diffuser et qui peuvent avoir un mot avant, pendant le match. Mais bon, c'est aussi ce qui est excitant de pouvoir vivre ces émotions-là, à Aimé Giral devant notre public dans ce contexte-là.
Aimé Giral qui va s'embraser cet après-midi, 17e guichet fermé, une ambiance de grand jour très hostile pour Paris, qui a mis le son des tribunes cette semaine à l'entraînement, mais qui n'a pas voulu décréter de mission commando, comme l'avoue l'entraîneur des avants Julien Tasté.
À 4 matchs de la fin de saison, on n'a pas pris le parti en tout cas de faire une séance vidéo d'une heure où on gueule, où on pointe les joueurs. Au contraire, comme je disais, il y a eu une partie d'échange et après on a essayé de leur montrer que quand on faisait les choses dans l'ordre, quand on respectait les rôles, quand on mettait l'intensité qu'il fallait, ben on arrivait nous aussi à mettre notre jeu en place, à déstabiliser l'adversaire, à scorer. On a essayé d'être plus exigeant sur cette zone-là. Mais après, valoriser tout ce qu'on fait de bien aussi et tout ce qui a été fait de bien, aussi bien sur le terrain d'entraînement que lors du dernier match.
En tout cas, les Parisiens devront être prêts dès 15h, car dès la descente du bus au pied du stade, les Catalans ont prévu de bien les recevoir avec un Estac qui va rester dans la légende aujourd'hui.
Ouais, ça va être. Vas-y, Denis.
J'adore. Mais c'est la chanson préférée de Vincent Moscato. Non, je la connais pas. Je la connais, mais je la chante pas.
Ok, c'est dommage.
Non, c'est trop beau. Mais c'est trop beau.
Ce petit, ah
non,
mais oui, c'est très beau.
Écoutez ça cet après-midi, hein, au moment où les USAPIS vont entrer sur la pelouse, ça va être un moment magique, hein, parce qu'il va vraiment y avoir le feu, les Parisiens vont prendre le feu
à ce
moment-là,
oui.
Hein, ça va être fou.
Perpignan,
ils vont prendre dès 15 heures, Christophe Lefeu, quand ils vont descendre du bus.
Ouais, je t'annonce qu'ils
vont être, VIP.
Julien, moi, c'est une autre époque, mais avec Vincent Moscato, j'ai connu une ambiance là-bas. Je m'en souviens encore. Hein. C'est il y a presque 30 ans, mais c'est.
On promet l'enfer au Stade français. Ça, ouais. Et justement, notre débat, on va laisser. Oh, tu pouvais laisser la musique, Alban Azaïs, mais c'est pas grave. Bah voilà. Oh là, c'est fou. Ce réalisateur qui, tel un pianiste, change de musique comme ça en 2 secondes. Le débat, c'est une équipe qui ne joue jamais le maintien est-elle désavantagée? Comme le Stade français, vous l'aurez compris. Est-elle désavantagée, cette équipe? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Elle est moins armée. C'est pas une question d'avantage ou de désavantage. Elle est moins armée, quoi.
Moins armée. Pascal Duprat.
Oui, elle est. Oui, c'est pas une question d'avantage, mais elle est moins rompue à l'exercice.
Ok, mais ça compte. Ok, Fred Le Canu.
Non, pour moi, c'est pas le sujet là.
Pour toi, c'est pas le sujet, Denis Charvet.
Oui, je comprends. Désavantagé peut-être pas, mais moins préparé, oui.
Moins préparé. Bah, Christophe, tu commences. Pourquoi moins préparé?
Pour simplement parce que la situation du Stade français est une situation exceptionnelle pour un club qui possède l'un des plus gros budgets du top 14, qui l'an dernier luttait pour tenter de décrocher le bouclier de Brennus et qui là, un an après, n'a plus du tout la gloire en ligne de compte, mais uniquement l'angoisse de la honte que constituerait une relégation en Pro D2. Ce club évolue en première division depuis 28 saisons d'affilée, et même s'il a dû parfois lutter pour conserver son rang, c'est rien par rapport à ce qui lui arrive aujourd'hui. La bagarre pour le maintien, c'est un exercice très particulier. La panique peut vite devenir mauvaise conseillère, et la panique, les soldats roses pourraient la découvrir tout à l'heure lorsqu'ils vont entrer sur la pelouse d'Aimé Giral, avec cet estaca qui va descendre des tribunes, avec ces supporters catalans qui vont siffler comme des dingue à chaque fois qu'un buteur du Stade français mettra le ballon pour. Ah là, t'es pas en Angleterre, là, je peux te dire. T'es pas à Vannes non plus, hein. Non, c'est pression constante. C'est assez extraordinaire quand t'es catalan, mais c'est difficile. Et puis, pour les Parisiens, il y a aussi l'angoisse de la relégation qui pourrait faire que le projet du PSG, du Stade français, disparaît. Parce que Hans Peter Wild en a ras-le-bol, ça lui coûte plus de 20 millions au bas mot toutes les saisons. Pour se retrouver en Pro D2, je pense qu'il pourrait mettre la clé sous la porte et dire « Salut les gars, vous démerdez maintenant ».
Oui, mais il est peut-être responsable aussi de ce qui arrive au club. Hein. Aussi.
Peut-être en partie parce qu'il est très absent et tout, mais enfin, il a mis des mecs en place. Hein.
Oui, oui,
il y a quand même une armée mexicaine autour du Stade français. Le dernier sujet, c'est que, à la différence d'un club qui lutte pour le maintien, qui a l'habitude, et l'autre qui a pas l'habitude, c'est que, regarde, les Perpignanais, eux, ils sont assurés, même en cas de descente en Pro D2 la saison prochaine, le président les a rassurés, le projet continue. Et ils vont bénéficier de l'appui du public. Le Stade français, non seulement ils savent pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine s'ils descendent, mais en plus, le public menace de boycotter la semaine prochaine le prochain match à Jambouin. Oui. Donc il y a vraiment une ambiance complètement différente d'un côté et de l'autre.
Pascal, non, mais ce n'est pas te faire offense, évidemment, tu as joué avec quelques équipes le maintien, parfois pas du tout et parfois régulièrement. Est-ce qu'il y a des équipes de maintien ou pas? Est-ce que ça c'est une légende ou est-ce que ça existe vraiment? C'est le sens de notre question.
Je suis convaincu que la force de l'habitude est prépondérante dans ce genre de mission. Même si l'USAP espérait faire une meilleure saison, parce que de jouer le maintien tout le temps, au bout d'un moment, on s'essouffle. Et on finit par tomber.
L'année dernière, ils ne jouaient pas le maintien.
Oui, mais
ils avaient fait une belle saison.
Ils espéraient cette année faire encore mieux, ouais. C'était mieux. Par contre, là où il y a une différence, c'est que de l'autre côté, côté des Racing Men, tout au long de la saison, ça ne tourne pas, mais tu dis ça va venir. Parce que tu n'es pas construit pour jouer le maintien. Et puis, tout d'un coup, comme le disait Christophe, bien, tu t'affoles. Tu dis, c'est pas venu, on est dernier, et là, on cède à l'affolement. C'est pour cette raison, à mon avis, que, en plus de jouer, bien sûr, à domicile,
les Perpignanais ont un avantage de l'avoir joué souvent, ce maintien.
Avantage certain, Denis Charvel.
Mais écoute, on pourrait inverser la question, on pourrait dire... Mais,
ah non, on touche pas la question.
Oui, on la touche pas. Perpignan, ils ont tellement l'habitude, je crois que c'est toi qui le disais, Pascal, ils ont tellement l'habitude de se retrouver dans une telle situation qui fait que, bon, mais dans la préparation mentale, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les quatre dernières journées à jouer la descente. Donc, si tu veux, c'est le match de la mort, il le joue toutes les saisons, il le joue. Il le joue.
Week-end.
Et peut-être pas tous les week-ends, mais enfin, en tout cas, en fin de saison, il le joue. Et là, c'est le jour. C'est le jour. Et le problème, c'est. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état d'esprit du Stade français. C'est même pas. On parle même pas de technique, là. On parle plus de
et
technique.
Et c'est peut-être même pas la motivation de Perpignan. Toi, ce qui t'inquiète, c'est le Stade français.
Mais c'est même pas la motivation, parce que là c'est un devoir de sacrifice, là. C'est-à-dire qu'on parle de sacrifice. C'est-à-dire que ce Stade français, qu'il n'a jamais montré de la saison, parce que moi, je vais les voir tout le temps, j'en moins, c'est pas une critique que je fais, c'est un constat. Et bien, je me demande.
Zéro victoire à l'extérieur, de
je me demande comment, aujourd'hui, je l'espère, je le souhaite, parce que j'aime ce club, tu le sais, mais je me demande comment, aujourd'hui, ils vont se surpasser, se sacrifier l'un pour l'autre pour arriver à à enlever cette pression qui va être sur leurs épaules pendant 80 minutes voire un peu plus parce qu'il y a l'avant-match et de s'en sortir de ce c'est pas un piège, c'est un guet-apens, c'est un enfer qu'ils vont vivre. Et s'ils sont pas préparés à jouer dans cet enfer-là, jamais ils s'en sortiront.
Cela dit,
surtout que je regardais un petit peu comptablement, c'est quand même très très chaud. C'est très très chaud parce que s'ils perdent aujourd'hui, il reste 3 matchs, mais tu reçois Lyon qui joue sa qualification, tu joues Castres qui joue sa qualification. Et tu vas clairement qui joue sa qualification. T'as une fin de parcours qui est terrible parce
c'est
que
pareil pour
t'es
les
face
autres,
à trois. Non, mais c'est pas autant. Là, c'est à trois écuries qui jouent.
Et Perpignan va à La Rochelle, ira, reçoit
aussi.
Toulouse.
Oui, mais Perpignan,
un cadre compliqué.
Perpignan,
aussi,
oui, mais vous oubliez Van. Il y a aussi Van qui joue aussi le.
Disons qu'il y a un des trois qui va chuter parce que Van n'est pas mort alors que tout le monde pensait.
Mais en tout cas, pour répondre,
Van allait mourir avant même de combattre et puis ensuite il y aura un barragiste.
Et Van qui a fait une super saison.
Oui,
en plus,
il y a encore des matchs, il y a encore du chemin quoi qu'on en.
Alors, il n'est pas d'accord avec vous, Fred Le Canut. Pourquoi c'est pas cette question qu'il faut poser. Pourquoi ça joue pas là?
Denis, il a répondu en partie à ce que je pense, c'est-à-dire que là, on est dans une culture de relégation, de ce combat-là. Or, au départ, le Stade français, il est pas construit pour ça. Il est construit pour être le meilleur, pour être tout en haut. Il y a l'accompagnement budgétaire, parce que je trouve quand même marrant qu'on dise du Paris Saint-Germain. Oh là là, ils ont plein de pognon, ils gagnent, c'est pas normal. Enfin, eux, là, il y a quand même aussi une dimension qu'il faut rappeler, c'est que malheureusement, il y avait un programme économique aussi pour ça, donc il y avait toutes les armes. Et là, on parle de catastrophe industrielle, et ça fait beaucoup de peine parce que sportivement, ils n'arrivent pas à produire. C'est zéro victoire à l'extérieur quand même, aujourd'hui, ce club-là. Donc c'est très dur pour eux, et on est au-delà de la relégation. C'est ce que tu dis, Denis, c'est retrouver une âme, retrouver une cohésion, et là, il va falloir parler d'identité, de sacrifice. Là, on n'est même pas dans une question d'habitude, de ces stratégies de relégation. C'est que là, il ne faut pas mourir. Là, à un moment donné, les gars, il va falloir y aller. Et Perpignan, c'est vraiment le club où tu sais que tu vas être reçu avec le couteau entre les dents. Qu'il va falloir se sortir du truc, du bois, quoi. Ça va être, ça passe ou ça casse. Là, c'est vraiment une dimension où ça va être très dur physiquement. Ça va être de l'impact. Et oui, il reste que 3 matchs derrière. Il l'a dit, Denis. Derrière, ça va être très compliqué ce qu'il va y avoir en face. Donc oui, c'est maintenant. Faut être là. Hein.
Faut pas repartir de Perpignan avec 0 points. Je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une défaite du Stade français. C'est la saison n'est pas finie. Reste 3 matchs. Mais sans prendre de points, de bonus, ça va être très, très compliqué.
Et tu as dit quelque chose qui m'a marqué, c'est gérer la honte. Gérer la honte dans ces moments-là. Parce qu'on a honte, évidemment, de son niveau. Non, mais comment faire pour gérer cette honte?
C'est presque, alors, si les rugbyman parisiens ont honte, c'est presque de la condescendance, alors. Parce que ça arrive dans la carrière d'un sportif. Il y a toujours un premier, un dernier. Donc ça veut dire que, statutairement, ces joueurs-là sont faits pour être au sommet. Ça tourne un peu moins bien. Sors très bien que les doigts.
En rugby, Pascal, souvent, l'ordre du top 14, il se fait en fonction des budgets. Et le budget du Stade français, il est quand même très très élevé depuis des années.
C'est pas le même que celui de Van, habitué à jouer
les titres. Donc c'est pour ça que je parle de honte. C'est la honte de devoir être dans le rugby du bas alors que tu te considères comme étant dans le rugby du haut et tu te considères à juste titre comme étant dans
le rugby. Mais les joueurs l'ont dit qu'ils avaient honte.
Ils sont demi-finalistes l'année dernière.
D'une
saison à l'autre.
Mais moi j'ai pas envie d'accabler que les joueurs parce que c'est
un truc.
absolument. C'est un club, c'est un président, c'est un directeur général, c'est des staffs. On voit bien qu'il n'y a pas une harmonie aujourd'hui. On voit bien qu'il manque cette âme qui est supplémentaire pour s'en sortir. C'est ça qui me
manque. Quand t'es 12e, de toute façon, souvent, c'est qu'il manque un truc. Hein,
ou oui, mais je veux dire,
l'histoire n'est pas finie.
C'est pas que les joueurs. Ce que
non, l'histoire n'est pas finie.
Et l'histoire n'est pas finie parce que ça peut passer quand même.
Souvent, le Stade français s'est retrouvé dans des situations un peu compliquées. Je me rappelle de cette histoire de projet de fusion avec le Racing. Et ben, ils avaient réussi à trouver des ressources. À un moment, ils ont fait aussi de l'auto
gestion.
L'auto-gestion. Ils avaient viré l'entraîneur. Et ben, ils ont réussi à.
Ils avaient gagné.
C'est un club qui est atypique dans le nord du pays, mais qui vit un peu avec la passion du sud du pays. Hein. Donc, il faut pas les enterrer trop tôt, les Parisiens. Mais cet après-midi, ça va quand même être coton d'aller gagner
devant la télé. Et ça va être palpitant, évidemment, cette fin de Top 14. Il reste 4 journées. On joue la 23e. À partir de 16h30, il y a Lyon Pau, Racing 92, Bayonne, Van La Rochelle et donc Perpignan, Toulouse, Stade Français, pardonnez-moi.
Multiplex rugby sur RMC.
Et exactement, avec Julien Landry au commentaire. À tout à l'heure, Julien, merci beaucoup.
À tout à l'heure,
entraîne-toi, entraîne ta voix, ça va être magnifique, évidemment, ce match.
Il n'y a que toi qui auras la parole cet après-midi, mais Julien. Les autres,
toi, tu es protégé en tant que Montpellier, non, à Perpignan?
Oui, ça va, je suis tranquille.
Ouais. On va pas t'agresser, t'es pas parisien,
non.
Quoi.
Non, non, non. Tu peux voyager sereinement.
Et puis ça reste du sport. À tout de suite sur RMC. Pour le débat caché, merci Julien Landry. Le débat caché, je pense que ça va vous plaire les GG. Enfin, j'espère en tout cas. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Denis Charvet, Fred Le Canu. L'actualité se bouscule. Mes chers GG, écoutez-moi bien, une information qui vient tout juste de me parvenir. Alors sachez évidemment que nous allons peut-être faire un débat caché dans quelques instants, mais c'est très important parce que demain nous serons en direct du Mans pour le Grand Prix MotoGP. Sachez que Fabio Quartararo vient de décrocher la pole position. Fabio Quartararo en poleman demain de ce Grand Prix MotoGP. Une première observation, génial. Christophe, c'est déjà extrêmement bien pour notre émission demain, mais c'est surtout extrêmement bien pour le Français qui allait mieux depuis quelques jours.
On rappelle que le circuit Bugatti n'est pas vraiment un circuit où il a brillé jusqu'à présent. Donc là, réussir une nouvelle pole alors qu'il avait déjà réussi à la faire la semaine dernière, c'est dire s'il est vraiment sur le bon chemin. De là à gagner lors du Grand Prix, ce sera peut-être difficile. Je crois que le dernier vainqueur français, c'est Monneret dans les années 50, un truc comme ça. Hein, donc,
La tâche est immense, mais déjà, il a fait, j'ai envie de dire, une partie du boulot. Peut-être une petite partie du boulot.
Fabio,
mais
Fabio, le problème, c'est qu'il avait une mobilette depuis 3 ans et que là, il a enfin trouvé une moto. Quoi.
Mais en 50, tu étais déjà, toi?
Non,
mais il avait commenté.
Tu m'as amené, je te dis la main, c'est toi qui m'as amené au stade.
Pascal, tu nous portes chance. C'est la première fois que tu vas aller avec nous au Mans demain.
Merci.
Pour le Grand Prix MotoGP.
Merci de souligner.
Déjà, ton. Non, mais je sais que voilà, tu t'intéresses à tous les sports. Je sais que tu adores la course automobile. Fabio Quartararo en pôle, ça peut être un moment magique demain, un moment d'histoire.
Ah oui, ça peut être un moment magique, ouais. Surtout que le dernier Grand Prix, il a résisté longtemps avant de se faire dépasser. Il a de nouveau une moto
compétitive. Il peut gagner.
Fred, toi aussi qui adore la moto?
Oui, j'adore la moto parce que je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et je suis devenu copain avec un garçon qui s'appelle Mike Dimeglio, qui a été dans le groupe là, des 24 heures du Mans. Donc je lui fais un petit bisou parce qu'il m'a emmené dans son monde que je connaissais absolument pas. Et donc voilà, le Mans, j'ai dû beaucoup travailler pour comprendre et je me passionne. C'est un univers que je ne connaissais absolument pas. Donc si vous ne connaissez pas la moto, faites l'effort d'aller vers cet univers.
Ah, j'aurais dû venir.
C'est top, hein. Mais franchement,
j'aurais dû venir avec vous.
C'est sympa, hein. C'est super sympa.
Je vais venir avec vous, Terre.
Il y a une ambiance.
Eh bah, bien,
dernier vainqueur français. C'est le Grand Prix de France.
Le papa de Philippe Monneret.
Tu étais à peine né.
Et c'est surtout le papa de Philippe Monneret qui est mon ami et que j'embrasse.
Ça va être le feu.
Qui a été un grand champion, son fils aussi. Mais c'est vrai que tu as raison, le papa de Monneret a gagné le Mans.
C'est le Grand Prix de France.
Le Grand Prix de France, pardon.
Je ne sais pas où ça se
passe. Je ne sais pas s'il n'a pas gagné le Mans.
C'était à Reims.
Allez. En tout cas, sachez que ça va être incroyable, une ambiance de feu, parce que Christophe, pour l'avoir partagé de nombreuses années, à chaque fois que l'on allait là-bas, El Diablo est fêté comme un héros. Il y a eu aussi Johan Zarco. Il y a les supporters des deux camps du côté tricolore, mais à chaque
Diablo,
fois c'est une ambiance
c'est
incroyable.
Christophe,
c'est El Diablo, exactement.
Mais il y a Marquez aussi qui renomme.
Mais oui,
bien sûr.
Non, c'est qui a été absent pendant 4 ans, je crois, non, c'est ça?
Oui.
Marquez est deuxième. Franchement,
non, deuxième,
Fabio Quartararo, Marquez, Joan Zarco, lui va partir en 11e position.
Après, pour arriver à terminer devant Marquez en ce moment.
Ouais, mais Friday, oui.
On en parle demain, en tout cas à partir de 9h, nous serons en direct du Mans sur le mythique circuit Bugatti, émission délocalisée avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault et Sarah Pitkowski. Allez tout de suite, on a 5 minutes, on va se faire un petit débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre sur l'instant, sur le moment, sur un sujet d'actualité. Le débat caché du jour. En tout cas, le thème, la thématique. Oh, vous allez tout de suite la cibler. C'est ça.
La victoire, elle est dans la poche de Léo Marchand, de ce phénomène, de la natation mondiale, de la natation française, du sport mondial. Léo Marchand, champion olympique, quadruple, champion olympique.
600e du record du monde, Julien.
Léo Marchand est quadruple, champion olympique. On va le répéter encore 10 fois. C'est fou.
Eh oui, c'était fou, c'était il y a quelques mois et après ces quatre titres de champion olympique, c'est tout à fait normal. Léon Marchand a eu besoin de digérer, de zapper quelques compétitions comme les championnats du monde petit bassin en décembre dernier. Il a eu besoin de s'exiler, de partir 3 mois en Australie. Il faisait son retour, on en a parlé dans cette émission la semaine dernière, en grand bassin. Sauf que là, il y a un doute, il y a une incertitude, même 2 incertitudes. Déjà sa présence au championnat de France en juin prochain, qualificatif pour les championnats du monde en juillet à Singapour. Et vous allez écouter Denis Hauguin, le DTN par intérim de la natation. Eh bien, il n'est pas sûr qu'il fasse et les championnats de France et les championnats du monde. Denis Hauguin.
Avec Bob il y a 3 semaines, on a beaucoup parlé, il communiquera sur ce qu'il ressent lui s'il veut le faire. Le vrai questionnement, c'est qu'est-ce qui anime vraiment Léon cette saison, et après voir comment on peut faire pour que s'il a envie de faire les champions du monde, il puisse les faire. Quand on est quadruple champion olympique, c'est le message que je lui porte, mais si c'est pour aller entre guillemets balader, moi je lui conseillerais pas de le faire. Encore une fois, c'est lui l'athlète et il décidera avec son coach bien évidemment, mais s'il fait les champions du monde, ce sera pour y être performant.
Pardon, mais les bras m'en tombent. Notre question, notre débat, son statut, son nouveau statut, est-ce que ça l'oblige? Est-ce que son statut l'oblige à faire ses compétitions? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Fred Le Canu?
Pas une seule seconde.
Alors là, les bras m'en tombent une deuxième fois.
Moi, j'aurais dit oui. Dire...
T'as le droit de dire oui.
Moi, je préfère dire oui.
Ok, on va écouter le camp du non, là, totalement non. Là. Pourquoi Fred Le Canu?
Bah parce que c'est son projet, c'est ce que vient de dire le DTN. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il veut lui? En fait, aujourd'hui, il est quadruple champion olympique. Le gars, pour arriver à là, et on en parlait tout à l'heure, tiens, la dernière fois, qu'Alcaraz, vous m'avez dit oui, regardez, on comprend pas son projet, parce que déjà, il faut savoir où il va. Oui, mais enfin, déjà, il faut voir d'où il vient, le gars. Pour arriver 4 fois champion olympique en France, ça a été monstrueux, sa préparation. Donc là, son destin lui appartient. Et c'est quoi son prochain objectif? C'est les Jeux. Donc entre les Jeux de Paris et les prochains Jeux en 2028, il va se reconstruire. Et pour ça, il va falloir de la répétition. Et pour avoir...
Alors
pour
je,
avoir
te là, tout je te réponds tout de suite. Et évidemment, Fred, tu pourras réargumenter. Mais un Teddy Riner que l'on voit une fois tous les 4 ans... Personnellement, mais c'est bien personnel, ça ne m'intéresse pas. Ouais, moi, j'ai envie que Teddy Riner porte le Paris Grand Slam au mois de février.
Déjà, monsieur, déjà pas tous les 4 ans, déjà.
Mais non, mais.
Commencez pas à faire de la désinformation.
Je dis qu'il ne fait pas ça, justement, mais quand on voit Teddy Riner au Paris Grand Slam, le judo a besoin de lui. Le judo a besoin se monte dans d'autres compétitions. Oui, regarde, son statut l'oblige.
C'est une compétition parisienne. Donc, en plus, c'est la vitrine du judo français. Donc, c'est vrai qu'on l'attend au Grand Slam, mais il va pas faire tous les championnats du monde et tous les championnats d'Europe. On le disait la semaine dernière, on faisait le débat la semaine dernière concernant Léon Marchand et on se disait, on comprenait que après ce qu'il avait connu durant l'été, il ait besoin de se sortir un peu du truc.
Sûr.
Tu l'as vu la semaine dernière, Julien nous le disait, les résultats n'ont pas été exceptionnels, il s'est essayé sur d'autres trucs. Laissez-le respirer, laissez-lui une année faire autre chose et puis si, autrement on peut le forcer à faire les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats de France, les championnats de son département. Et l'année prochaine, il va nous dire, non, c'est terminé, j'arrête ma carrière. Il faut le préserver veut qu'il dure quelques années, c'est tout.
Mais je comprends pas, dans tous les sports, tu préserves quoi? Tu préserves
déjà,
Tu sais
que c'est un sport hyper dur. T'es dans la flotte à 6h du matin, tu pulls chlore pendant.
Mais tous les sports.
Mais non, mais celui-là,
le sacrifice, il existe dans tous les sports, Christophe, quand même.
Il est particulièrement compliqué.
Tu peux pas dire ça.
Il est particulièrement compliqué. Et si tu t'aères pas à l'esprit, et si tu ne fais pas autre chose, et si au moment où tu n'es pas performant, on t'oblige à faire les championnats du monde, eh ben,
on parle de quoi? Mais on parle de quoi? Mais on parle de quoi? Le JO, c'était il y a un an déjà, non? Il me semble. Donc, je sais pas, moi. Tu me dis, on va préserver quoi? Donc, il fait l'impasse sur le champion du monde. Donc, il va reculer l'échéance jusqu'à quand? Moi, je sais pas.
Jusqu'au prochain.
Oui, non, mais je veux dire, c'est on l'attend. La natation mondiale l'attend.
Oui, mais
je sais pas, moi. Les gens viennent voir la star.
Denis, c'est
un devoir pour moi.
Toi, t'es un dresseur de
d'ours.
Parce que t'aurais aimé dresser les ours et les amener dans les
si Léon Marchand et son entourage, ne sentent pas que le nageur est performant en ce moment. S'il a besoin de souffler, s'il va pas être performant au championnat du monde, est-il obligé de les faire?
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Eu égard à son statut.
Mais c'est dommage. Non, mais je comprends ce que tu dis. Je comprends. Je trouve dommageable qu'il soit pas là, quoi. Tout simplement.
Vous confondez l'histoire.
Pour terminer,
Confondez le sport et le spectacle. À un moment donné, pour le spectacle, il faut qu'il soit là.
C'est les deux, hein.
Tu crois que
l'un va sans l'autre? Je pense pas.
Eh ben, justement, si, la preuve en est. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, c'est pas sa temporalité. Et ça fait souffrir tous ceux qui, comme moi, ont envie de le voir. Mais c'est sa temporalité pour revenir pour les Jeux.
Peut-être, mais par exemple, je donne un exemple. Là, pour terminer, je ne veux pas relancer le débat, mais c'est vrai qu'un Julien Alaphilippe, quand il est champion du monde, si l'année qui suit, il dispute une course avec son maillot de champion du monde, personnellement, je trouve que son statut l'oblige. J'ai un peu les boules. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. Et c'est pour ça que je voulais vous.
T'as raison.
Moi, je proposais ce débat.
C'est censé ce que tu dis. Absolument.
S'il était en forme, il y serait allé. Julien était en forme l'année d'après. Il est redevenu champion du monde. Si t'as la forme, t'as envie d'y aller. Mais si tu sens que t'es au fond du trou, est-ce que t'as envie d'y aller?
Toi, par contre, tu vas y aller au moins. Alors, t'es pas très en forme.
Pour te faire taper par tout le monde.
Il y a une incertitude, en tout cas.
Si tu au moins, tu serais bien là.
Ok. Merci beaucoup. Les GG. Merci à vous, mes chers auditeurs. On se retrouve demain en direct du Mans, vous l'avez bien compris, pour le Grand Prix MotoGP. Avec cette information, Fabio Quartararo, notre Français, partira en pôle El Diablo. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. 33e journée de Ligue 1, évidemment, à tout de suite.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.